Aujourd'hui, on jase de production publicitaire, de talent, de qualité et de focus avec Vincent Le Guenec de la boîte de production Les Enfants. Bon podcast!
De toi, il y a Michel qui est peut-être qui est trop occupé. Puis,
Michel David ou Michel Fortin?
Ah, Fortin, excuse. C'est vrai. Ah ouais, okay. Trop de Michel dans cette industrie-là.
Il y en a plein, il y a Michel Boyer aussi.
C'est vrai. On n'a pas de nouveau Michel, par exemple.
Hein? Non, il n'y a pas de nouveau Michel. C'était un nom qui était populaire à l'époque, mais il y a un peu moins maintenant.
C'est ça. Peut-être juste faire un petit topo sur les enfants dans un premier temps pour situer ceux qui la connaissent moins ou ceux qui pensent bien la connaître.
Qui avait été fondé par Paul Barbeau. Et puis, voyant finalement beaucoup de ces réalisateurs de clips, parce que beaucoup de réalisateurs venaient du clip à l'époque, ou venaient de la course autour du monde, toutes des jeunes qui arrivaient comme ça, qui avaient du talent, voyant ces réalisateurs partir faire de la pub, à un moment donné, Paul s'est dit, bah, je vais fonder une boîte qui fait aussi de la pub, plutôt que de voir mes réalisateurs que je forme en clip, avec qui je fais 50 clips par année, qui deviennent aguerris en réalisation. Et donc, il a fondé Les Enfants. Et puis en fait, Les Enfants, rapidement, on a cadré notre vision sur on est simplement une boîte de production. C'est-à-dire qu'on est des producteurs, des réalisateurs, et on ne s'aventure dans aucun autre domaine, comme la poste, comme le son. On est resté des spécialistes qui développent un savoir-faire dans produire des spots publicitaires, entre autres. Et puis maintenant, évidemment, ça évolue. Mais voilà, donc c'était vraiment ça, notre particularité, parce que tous les autres gros joueurs ont développé de la post-production à l'interne, ils ont des studios, ils ont des grosses machines, alors que nous, on est resté très, léger, dans la mesure où tout ce que nous avons, c'est des producteurs, des cordons et des réalisateurs.
Possiblement plus agile également, dans la mesure où vous n'êtes pas tenu, à moins que vous ayez des contrats d'exclusivité avec des boîtes de post-prod, à travailler toujours avec les mêmes artisans.
Ben non, justement, ce qui était important, c'était de pouvoir laisser le choix aux réalisateurs et aux talents et aux agents d'aller travailler avec les forces de chacun. Donc au contraire, on n'a aucune entente spécifique avec personne, on est ouvert à aller travailler partout et c'est en fonction des besoins de la production.
Comme dans le bon vieux temps.
Comme dans le bon vieux temps, exactement.
La prod chez vous, comment ça va ces temps-ci?
Oui, c'est vrai qu'il a diminué, mais une chose est sûre, c'est que les créatifs puis les agences, ils veulent des spots de haut niveau. Ils ont l'occasion de se comparer avec tout ce qu'on voit passer partout, sur le web, c'est ailleurs dans le monde. Ils veulent gagner des prix, donc ils veulent travailler avec les meilleurs. Puis ça, c'est un peu sans prétention, parce que toutes les boîtes ont des très bons résultats, mais je pense qu'on a un très bon roster. Et donc, nous, ça va quand même bien.
Mais en 6 ans, vous avez senti l'impact du marché, vous aussi?
Oui, parce que je te dirais, il y a 10 ans ou 12 ans, quand j'ai commencé en prod, les boîtes de prod, elles étaient capables de tourner sur une dizaine de talents. Hein? Mais avec, l'avènement des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, de l'accessibilité à des outils de prod, ben, tout à coup, on a vu l'émergence d'un plein de talents ou de gens qui font de la production. Et puis aussi, l'avènement du produit pas cher. T'sais.
Oui.
Mais, en bout de ligne, on en revient à qui est-ce qui a le savoir-faire? Parce que c'est bien beau de tout le monde est capable de faire quelque chose, mais qui sait bien le faire? Puis ça, ça n'a pas changé dans le milieu. Il y a toujours comme un 5 ou 10 ou un 15% qui savent spécialement bien le faire. Puis aussi, je te dirais, il y a peut-être 15 ans, il y avait beaucoup de pubs qui se tournaient à Montréal, donc les créatifs étaient appelés à faire beaucoup de production, à faire 10-12 tournages par année. Ben là, dans les dernières années, ils en font peut-être 3-4. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils en font une, ils ne prennent pas de chance. Ils veulent travailler avec les gens qui sont les plus expérimentés, qui ont le plus de talent, avec les meilleures équipes, les meilleures boîtes de production. Donc, des fois, oui, ils vont laisser la chance, mais je te dirais que la chance, à l'époque que les gens pourraient avoir l'opportunité de faire ton nom ou de passer peut-être comme troisième joueur, ben, y a moins de chance de se passer.
Les clients sont-ils encore, parce qu'eux autres aussi ont une pression financière, le marché se shrink, ils ont une immense pression, y compris sur les coûts. longtemps, il y a eu de l'abus parce que la seule chose qui comptait, c'était la petite ligne noire en bas en espérant qu'elle soit pas dans le rouge. Puis on a vécu des moments où les productions étaient peut-être de moins bonne qualité, quitte à pas en avoir du tout, puis c'était du contenu fait ailleurs qui était utilisé ici.
Oui, c'est sûr qu'on peut, effectivement. Il y a quand même eu, tu sais, à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, on tournait qu'en 35 mm. C'était comme une spécialité, savoir tourner en 35 mm. Ça impliquait une autre forme de production où il y avait, déjà, il fallait savoir manier les outils-là, la caméra 35 mm, la pellicule, la développer. Là. Donc, il y avait toute une espèce de, je ne dirais pas de décorum, mais de processus là, autour de tourner qui était comme une spécialité. Enfin, on n'avait pas le choix, il fallait travailler comme ça si on voulait avoir des spots de qualité et qu'on puisse diffuser à la télé. C'est sûr que les outils se sont améliorés, ils sont devenus moins chers, donc ça a donné l'accès à plus de gens à tourner. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'est passé, puis le fameux avènement du web, là, où on s'est mis à dire, ouais, mais là, il y a des projets télé, puis il y a des projets web. Puis à l'époque, la ligne était super claire entre la télé et le web, donc les projets étaient différents. Mais maintenant, la télé, le web, la ligne n'est plus très claire, c'est juste un lieu de diffusion différent. Il faut rivaliser peut-être d'ingéniosité pour trouver des formats qui sont différents aussi, qui vont capter l'attention du spectateur. Mais en bout de ligne, la qualité est la même. Je veux dire, si je dois faire jouer des comédiens qui vont passer dans un pod télé, enfin, à la télé ou sur le web, j'ai besoin de très bons comédiens de toute façon. Si je tourne un plan produit, j'ai besoin qu'il soit beau de toute façon, que ce soit sur le web ou sur la télé.
C'est drôle, hein, parce qu'avant, on tournait un spot. Puis éventuellement, sur le web, on montait, on irait mettre le making-of ou n'importe quoi d'autre de pas intéressant. Puis avec l'avenue du contenu, c'est un peu le contraire. On développe quelque chose qui est pertinent puis qui est pas restreint à un format de 30 secondes because le média. Qu'on a oublié à ce moment-là, c'était que c'était le même consommateur au bout du chemin. Fait que ce qui se passait, c'est qu'il voyait un spot hyper léché à la télé et puis quelque chose de généralement hyper moche sur le web. Fait que exact. Quelque part, il se faisait une perception mitoyenne de la marque parce qu'il y avait le meilleur et le pire en même temps.
Et tout à fait. Et puis comme je te dis, maintenant, cette ligne-là est plus claire du tout. Là. On veut mettre le même spot au même endroit. Et le lieu de diffusion a changé.
En fait, la différence à l'époque était strictement budgétaire. Ça commençait la démocratisation des outils, donc on était capable de faire des trucs similaires au 35, naturellement pas la meilleure qualité.
Mm-hmm.
Les ordis, les écrans étaient de moins bonne qualité à l'époque. La transmission, le bandwidth, c'était pas la même chose. Fait que
c'était
jusqu'à un certain point logique vu d'un point de vue comptable, mais tout à fait illogique vu d'un point de vue branding, marketing, consommateur.
Totalement d'accord. Mais la technologie nous a rattrapés et là a fait en sorte que tout ce qui est image et numérique, regarde, comme tu dis, tout ton ordinateur, puis la pub, du streaming, je veux dire, tu vois des films en streaming, c'était impossible de penser à ça il y a même 10 ans. Là,
mm-hmm. Est-ce qu'on voit un impact de la technologie sur l'approche des nouveaux réalisateurs?
Je t'avoue que oui, ça donne l'occasion à beaucoup plus de gens de toucher à ce média-là et de faire quelque chose. J'ai comme l'impression que quand même le talent et le savoir-faire, ça s'apprend, ça s'enseigne, nous, notre travail de producteur, c'est, je dirais, en tout cas, en général, les producteurs qui ont des boîtes de prod, c'est de trouver des prochains talents. Puis ça prend beaucoup de temps de former un talent, même s'il arrive avec des bonnes bases, parce que le talent brut, c'est le fun. Et après ça, on rentre dans un système qui est celui de la pub, des agences, des clients, du service, de la diplomatie, de synthétiser des idées, de les raconter en 30 secondes. Fait que de toute façon, oui, il y a plein de gens qui arrivent aux portillons et qui ont des choses à montrer, mais rarement, nous, beaucoup de spots qu'on fait, c'est des spots d'humour, des spots où il y a des dialogues, où il y a des comédiens, mais la plupart des gens n'arrivent pas avec ça. Ils arrivent avec des trucs d'image, ils font des trucs d'image, c'est quand même beaucoup plus facile. Tout le monde est capable de faire une belle photo sur Instagram, mais diriger des comédiens, pas beaucoup de gens sont capables de diriger correctement des comédiens, de les choisir, de percevoir ce que
Ben, c'est un petit peu dans ce sens-là, ma question, justement, parce que à partir du moment que les ordinateurs ont commencé à entrer dans les agences, puis tous les logiciels de mise en page, puis les Photoshop de ce monde, je me rappelle qu'il y avait des directeurs artistiques qui se laissaient embobiner par... la machine, puis j'ai l'impression que la créativité en perdait un coup parce que la technologie, le syndrome du bouton prenait beaucoup de place. Puis je me demandais si c'était la même chose avec Nereal d'aujourd'hui. Est-ce que la technologie fait en sorte que ça les intéresse plus?
Je pense que t'as totalement raison. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce phénomène-là, puis il existe maintenant de prendre en réalisation et il va continuer à exister. Je veux dire, tout le principe d'un bon spot télé, là, c'est une bonne idée à l'origine. Fait que, moi, on parle toujours de souvent, ah ouais, c'est ça la gimmick, il y a une gimmick, là. La gimmick, ça va être ça, on va faire une shot avec ça, ou en drone. Mais si ça sert l'idée, c'est bien correct. Mais si ça devient l'idée, c'est moins intéressant déjà. Fait que, oui, c'est un piège que, je pense, toutes les générations après nous ou avant nous l'ont eu à cause de la technologie. Mais de vouloir absolument caser quelque chose dans le VR ou dans Instant, parce que c'est ça la nouveauté, je sais pas, vaut mieux à l'origine avoir une très bonne idée. Je veux dire, si la technologie qui mène la création, ça va pas bien.
Dans un monde idéal, mettons que tout est possible aujourd'hui, on a un pouvoir magique, y a-t-il des aspects que tu changerais du milieu?
Ce que je trouve dommage, c'est qu'un peu de perdre des comptes. Pour tous les producteurs au Québec, c'est toujours un peu plate de voir des comptes partir à Toronto. On a l'impression que c'est quand même assez cyclé, qui part. Éventuellement, ils se rendent compte qu'il vaut mieux qu'ils reviennent. Mais c'est vrai que on dépend quand même beaucoup de ça, de ces comptes-là. Fait que s'ils partent, puis c'est sûr que c'est un manque à gagner pour tout le monde. Donc je dirais que c'est peut-être ça le grand enjeu, mais bon, là, ça dépasse aussi beaucoup les boîtes de prod. Puis tu sais qu'on est très territorial, nous. Donc, on ne va pas à Toronto pour produire. Les tentatives qui ont été faites d'aller produire à Toronto ont plutôt été des mauvaises expériences pour les boîtes de prod en général.
Ouais, ça s'exporte pas, ça, hein, ce talent-là.
Ça s'exporte très mal. Les Européens l'ont fait, les Anglais l'ont fait, mais ça s'exporte, le brand s'exporte, mais pas automatiquement les talents. C'est un peu ça notre fatalité, c'est qu'on est un peu, à moins vraiment là, qu'il y ait quelqu'un qui trouve la bonne manière de le faire, là, on est un peu contraint à rester ici. On a une association là, des producteurs qui a quand même balisé, ou commencé à baliser la façon de produire, parce que c'est vrai que ça aurait pu devenir le Far West avec toutes ces nouvelles façons de diffuser, puis ces nouvelles, tu sais, ces nouveaux lieux où tout à coup les tarifs étaient différents. C'est bien monétaliser les choses là, pour faire les règles. Comme nous, on est assujetti à des règles avec les techniciens, l'actif. Puis c'est normal qu'il y ait des règles pour que, justement, qu'on soit dans une ambiance, dans un cadre qui est juste et honnête pour tous. Là,
ça s'annonce comment, le futur?
Ben, comme je dis, moi, le contenu est en demande. Fait qu'à partir du moment où tu sais en faire, ben, du moins, comme nous, très léger comme façon de produire, c'est-à-dire on n'a pas une grosse boîte avec une grosse structure qu'on doit alimenter automatiquement. Ben, moi, je pense qu'il est plutôt positif, le futur. Nous, on regarde cette nouvelle façon de produire, les nouveaux formats qui vont être demandés, le côté plus documentaire. Donc, le contenu, ça a un prix. Et puis, c'est peut-être ça que les gens, des fois, ils se trompent, c'est qu'ils ont l'impression que on peut faire du bon contenu avec peu de moyens. Des fois, oui, la qualité est très bonne, mais en général, ça prend des moyens, ça prend du temps, ça prend des gens, ça prend des experts. Puis, c'est comme si on avait perdu un peu le fil de genre les gens qui ont une expertise, qui savent bien faire. Alors, on ne peut pas demander à n'importe qui de faire. Alors, moi, je n'ai pas demandé à un menuisier de venir faire la plomberie chez moi. J'appelle un plombier. Ben, quand tu veux faire une bonne prod, ben, tu amènes une bonne boîte de prod, un bon réalisateur, tu prends un bon directeur photo. Puis, si tu n'as pas les moyens de les payer, ben, les gens ne vont pas faire travailler à rabais, ils ont des tarifs, ces gens-là. Puis, c'est un peu ça, ce respect-là qu'il faut apprendre aux gens, de leur dire ben, tout a un prix dans la vie. Hein. Je veux dire, c'est drôle, nous, c'est comme quand on fait des budgets, les gens veulent des choses, mais nous, quand on fait un budget, on fait une estimation, on ne sait pas ce que va nous coûter, quoi, quand, où, tu sais.
Ouais.
Après ça, on joue un peu avec, tu sais. Mais des fois, on a l'impression que c'est comme si les gens rentraient dans un restaurant, puis ils ne voulaient pas payer le dessert. Là, c'est comme, ben, tu vas au restaurant, puis tu ne payes pas le dessert quand tu commandes. Ça se fait pas.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das PizzCast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!